L'ouverture d'une porte des élus. L'ouverture d'une porte des élus. L'ouverture.
Je regarde s'ils sont présents et je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Ils sont observés en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Bon, messieurs, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire, c'est d'écraser, d'humilier, déshumaniser.
200 000 francs la télé.
Un maton.
Dans les cours de promenade.
Salut à tous.
Salut.
Et à toutes. Donc, alors aujourd'hui, on est dimanche 6 juin. Vous êtes sur 895 de Radio Audio. Vous écoutez l'émission Papillon. L'émission de Radio Audio qui parle des prisons et du monde qui va avec. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je l'ai dit, c'est 17h30. On est en direct sur 895 de Radio Audio. Et du coup, alors, cette émission sera rediffusée le vendredi 11 à 10h30 sur Radio Audio, sur 895 de Radio Audio. Et le mardi, alors que je regarde, le mardi 15 à 20h sur Radio Canus 102.2. Donc voilà. Alors on rappelle toujours comme d'habitude hein, que vous pouvez nous écrire, que vous soyez prisonnier, proche de détenus ou simplement intéressé par la question. Pour nous écrire, c'est alors à l'émission Papillon chez Radio Audio, boîte postale 51 42 002 Saint-Étienne CEDEX 1. Donc on rappellera toutes ces adresses à la fin. Donc au sommaire de cette émission aujourd'hui, on a alors plusieurs petits témoignages de la maison d'arrêt de la Talaudière. Ensuite, on a un montage par rapport en fait à une soirée qu'il y a eu dans le cadre de la semaine contre les expulsions avec un avocat, donc une intervention de cet avocat qui revient essentiellement sur les conditions de contrôle d'identité, d'interpellation et de garde à vue. Donc voilà, on aura plusieurs petites brèves comme d'habitude. Et puis à la fin, on va revenir sur le festival Paroles et Musique qui intervient à la maison d'arrêt de la Talaudière, Paroles et Musique en Liberté. Donc voilà, bah on va commencer tout de suite avec une lettre, un courrier.
Ouais, donc voilà, on a reçu une lettre de quelqu'un qui est à la Talo depuis 2 ans, si j'ai bien compris. Et voilà, ça parle de réinsertion. Vous savez, ces grands mots avec lesquels on nous bassine. Et ça montre un peu la réalité, en fait, de ce que c'est. Voilà, c'est un exemple assez parlant. Donc voilà, je vous lis cette lettre. Je m'éclaircis la voix. Alors, ce jour-là, j'avais rendez-vous avec une représentante de l'AFPA pour passer leur test habituel, car je souhaite faire une formation dans le photovoltaïque. À 9h, je suis donc appelée par le surveillant. Je descends, plutôt enthousiaste, vu qu'après ces tests, la formation ne tarde pas à arriver. Je rencontre cette personne, nous allons dans une salle et là ça commence. Première question de sa part, avez-vous le permis voiture ? Je réponds que non et qu'il me faudra attendre 2 ans avant de le passer. Abasourdie, elle me dit que rien que par ce fait, j'ai trop mal choisi ma formation car ce travail représente beaucoup de déplacements. Je lui réponds que dans ce genre de boulot, ce sont des équipes, donc il y en a forcément qui ont le permis. Là, elle me dit que je pourrais pas toujours compter sur les autres. Mais bon, je peux pas le passer. C'est comme ça. Après quelques questions du style « Êtes-vous allé rencontrer des professionnels ? Est-ce que certains sont venus me voir ? Suis-je allé sur des chantiers ?» Je lui réponds que ça fait bientôt 2 ans que je suis en maison d'arrêt et qu'on ne sort pas quand on veut. Ah, il y a un bruit bizarre. Ça me déconcentre. Merci, Olga. Donc, excusez-moi, il y avait un bruit qui me déconcentrait beaucoup. Alors, je reprends. Là, elle s'énerve et me demande pourquoi je n'ai pas lu ce qu'il y avait à la bibliothèque. À la bibliothèque, il y a 2 pages sur le photovoltaïque qui disent seulement qu'il faut des notions de plombier et chauffagiste. Je lui explique que moi, je veux commencer par la pose simple de panneaux solaires et ensuite, en entreprise, faire les formations complémentaires. Elle me répond que n'importe qui peut poser ça et qu'il n'y a pas de formation pour simple poseur. Chose fausse. Elle ne me croit pas et décide d'appeler une amie à elle de l'AFPA. Elle l'appelle et là, pendant 5 à 10 minutes, elle papote.
Il y a vraiment plein de bizarre.
Je suis vraiment désolée pour la personne qui a écrit cette lettre que je suis en train de massacrer. Je reprends. Elle ne me croit pas et décide d'appeler une amie à elle de l'AFPA. Elle l'appelle et là, pendant 5 à 10 minutes, elle papote de la pause café croissant qu'il y a le lendemain à l'AFPA. Je lui fais signe pour lui dire qu'il y a encore les tests à faire et qu'elle demande les dates de formation. Elle me répond « Vous avez bien 5 minutes !» Elle raccroche pour me dire ce que je savais déjà, c'est-à-dire qu'il y a une formation en août que je ne peux pas faire car c'est trop tard. Mais elle n'a pas demandé quand était la prochaine. On sort du bureau. Je vais exploser. Et là, elle me dit « On a perdu trop de temps. Je ne peux pas vous faire passer les tests. » Alors qu'elle était venue que pour ça à la base, me faire passer ses tests. Je lui dis que je veux les passer car j'ai perdu une journée de boulot et une journée de boulot en prison, ça compte. Et là, tout étonnée, elle me dit « Ah bon, vous n'êtes pas payé quand vous venez me voir ?» Et avec son air ahuri, elle me propose de revenir le lendemain. Je lui fais comprendre que ça m'arrange pas qu'elle vienne le matin à cause du boulot. Alors elle me dit simplement « Eh bien, je préfère qu'on se revoie quand vous aurez fini votre peine. » Si j'avais pu passer ces tests, j'aurais sûrement eu une place pour la prochaine formation, ce qui aurait conforté mon dossier de chantier extérieur, qui en fait a été refusé malgré tous les efforts de réinsertion, comme ils disent, que j'ai fait. Et pour couronner le tout, le procureur révoque 1 an que j'avais en sursis, ce qu'il n'aurait peut-être pas fait si cette femme avait fait son boulot. Voilà. Donc merci beaucoup à la personne qui nous a envoyé ce petit témoignage. Moi, je crois vraiment que c'est des exemples concrets du quotidien comme ça qui montrent ce qui se passe en tôle, en fait, vraiment, derrière tout le vernis qu'on veut y mettre et les épais murs. Et en plus, la réinsertion, c'est vraiment ce truc de merde avec lequel on nous bassine, là. Même dehors, c'est surtout du contrôle. Et quand t'as vraiment un projet, on t'aide pas souvent. Et ben voilà, en prison, ben c'est encore pire, quoi. On se fout de la gueule du monde. Voilà, c'est assez énervant, cette histoire. Voilà. Ben merci à toi, en tout cas, qui nous a écrit.
Et du coup, donc, on a aussi eu d'autres informations de la Talaudière, donc des informations assez récentes, toujours des témoignages de l'intérieur. Donc, merci, du coup, de nous informer, de tenir informé l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, cette semaine, donc, il y a eu... Alors, c'est un peu compliqué à comprendre, hein, je précise, parce que nous, c'est un fonctionnement qui nous dépasse. Et du coup, donc, si je suis pas claire, si je fais des erreurs, surtout, n'hésitez pas à nous reprendre dans un prochain courrier ou... enfin, voilà, dites-le nous, quoi. Mais bon, je vais essayer d'être claire. Alors, en fait, cette semaine, il y a eu un incident au premier étage du bâtiment A, en cours de sport. À la Talaudière, il y a 2 cours. Il y a celle du sport et celle de la promenade. Suite à ça, l'AP de la Talaudière a pris des sanctions et a décidé de bloquer le premier étage, donc le bâtiment du premier étage, et qu'il n'aille plus en sport et qu'il reste qu'en promenade. Sachant qu'il y a des rotations entre groupes, le premier étage A et le bâtiment D sortent en même temps mais sont séparés. Donc quand l'un va au sport, l'autre va à la promenade. Sachant que le premier étage A va en promenade et est bloqué en promenade sur décision de l'AP, le bâtiment D ne va plus qu'en sport et ne va pas en promenade. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que sur le créneau 13h30-15h30, donc qui est le créneau des parloirs, sur ce créneau-là, donc le créneau des parloirs, le créneau horaire 13h30-15h30, les gens qui ne vont tout le monde est malade, tout le monde tousse. Alors je reprends. Donc sur le créneau 13h30-15h30, donc il y a le premier étage A qui va qu'en promenade et le D ne va qu'en sport. En gros c'est ça. Et donc ce qui se passe, c'est que le premier étage A va, je me répète, qui va en promenade. Je ne vais pas y arriver, c'est super compliqué. Le premier étage A va en promenade et est assigné à la promenade. Et ça, c'est sur le créneau des parloirs. Ce qui fait que vu qu'il n'y a plus du tout de rotation entre les créneaux horaires et entre les groupes, ça fait que pendant 1 mois, et ça, c'est la durée qui a été fixée par l'AP, le bâtiment D et le bâtiment A vont soit en sport ou soit en promenade. Mais c'est ni l'un ni l'autre. Et pour ceux qui ont les parloirs à ce moment-là, eh ben, ça veut dire qu'ils n'iront plus du tout en promenade, en fait. c'est un peu compliqué. Donc vraiment, si je me suis mal exprimée, n'hésitez pas à le redire, etc. Donc en gros, voilà, il y a l'AP suite à des incidents, en fait, qui prend le prétexte, un espèce de truc sécuritaire de punition dans la peine, et qui dit, bah puisque c'est ça, on vous punit, et ça se passe que comme ça maintenant. Alors ça, c'est assez récent. Ça s'est passé cette semaine. Petit à petit, visiblement, vraisemblablement, les gens commencent à s'en rendre compte à l'intérieur. Et donc, essayez de vous renseigner sur ça. Et voilà, s'il y a plus d'infos, si vous faites... des réclamations par rapport à ça, bah surtout informez-nous en fait de la suite. Et puis bah voilà, parce que les réclamations en prison, des fois, ça peut aussi dégénérer d'un point de vue de l'administration pénitentiaire. Et du coup, enfin, tenez-nous au courant, quoi. Et il y a un autre truc qui se passe aussi à la Talaudière en ce moment, c'est qu'il y a un nouveau système pour les douches. Donc le temps, il a été réduit. En fait, il est passé, il est plus que d'une heure, et c'est entre 7h et 8h du mat. Et donc les gens, ils vont par équipe de 6, donc il y a 6 équipes de 6 sur 6 douches, sauf que sur ces 6 douches, il y a 3 douches qui marchent. Donc au lieu de 10 minutes par personne, maintenant c'est plus que 5 minutes par personne. Et en plus, sachant que c'est entre 7h et 8h et que les parloirs sont à 8h30, en gros 5 minutes par personne, enfin c'est super le speed pour tout le monde, et là ça va pas du tout. Donc voilà, donc si vous avez plus d'informations, et je suis désolée hein, si j'ai pas été claire, mais c'est hyper compliqué à comprendre, et du coup voilà, n'hésitez pas à nous tenir au courant de la suite de ça.
Et puis il faut réparer les douches, quoi. En fait, c'est ça aussi le motif de la plainte, c'est que peut-être que les détenus puissent se laver correctement, et puis voilà.
Bah, ouais, je sais que l'OIP, il y a quelque temps, avait fait, l'OIP Lyon avait fait une réclamation parce qu'il y avait un détenu qui s'était plaint, en fait, des ampoules électriques qui n'étaient pas changées, et ils allaient, il me semble, c'était aux douches dans le noir, ou alors, ou peut-être pas aux douches, mais bon, il y avait un lieu qui n'était plus du tout éclairé, et en gros, elle n'a jamais eu de suite parce que directement... l'administration pénitentiaire de la Talaudière ne veut pas que l'OIP passe par ses agents, mais directement par la direction. Donc la direction centralise toute l'information et et ce qui se passe à l'intérieur, en fait, quoi. Et du coup, il n'y avait pas eu de suite par rapport à ça. Ça se trouve, ça n'a pas été réparé. Enfin, ça prend des temps hallucinants, quoi.
Et en fait, il faut qu'ils fassent une procédure disciplinaire pour changer une ampoule. Ils sont vraiment tordus, ces administrateurs, là-bas.
Donc du coup, voilà un peu pour ce qui se passe à la Talaudière. Et donc, bah, merci pour ces témoignages et tenez-nous au courant de la suite. Et
juste par rapport aux rotations, est-ce que tu connais le prétexte exact ?
Je t'entends pas.
Merde. Bon.
Le prétexte des rotations.
C'est-à-dire le prétexte des rotations.
Bah, pourquoi ils ont changé tout ça, enfin, pourquoi...
Bah, parce que vu qu'il s'est passé des problèmes avec le groupe du premier étage A... Dans la cour de sport, ils veulent plus les mettre en sport, en fait. Ils les mettent qu'en promenade. Et les autres, le bâtiment D, du coup, ça se répercute sur le bâtiment D qui va uniquement en sport et plus en promenade. Donc voilà, c'est en fait un espèce de truc de jeu de domino, comme ça, qui se répercute sur tout le monde, en fait.
D'accord.
Ouais, enfin, moi, je redis qu'ils ont vraiment un esprit tordu, ces
administrateurs. Bah oui, ils ont un esprit tordu, ça c'est
clair. Quand la sécurité prime, de toute façon...
Enfin, pour réfléchir à des règles comme ça, je pense qu'il faut vraiment être tordu dans sa tronche, quoi. Donc voilà.
Ok. On va faire une petite pause musicale.
Ouais.
Petite musique gay, c'est ça ?
Ah oui, c'est donc Nick Cave. Brother, my cup is empty. Voilà.
So brother, my cup is empty, and I haven't got a penny. But if I no more whiskey, I have to go home. I am the captain of my pain, just a bit the bridle and the thrashing cane, the stirrup, the harness and the whipping mane, the pickled eye and the shrinking brain. Brother, buy me one more drink, and I'll explain. Yeah, let me tell you once again, I am the captain of my pain. Brother, my cup is empty. And I haven't got a penny. But if I no more whiskey, I have to go home. I cannot blame it all on her. To blame her always be a lie. The many nights I lay awake, I wish that I could watch her die. See her accusing fingers burn. See blasphemy, my hateful eye. Watch her groaning in the dirt. See her clinging tongue black dry. For love, buy me one more drink. One more drink and then goodbye. When I say, let's drink one more before I die. Brother, my cup is empty, and I haven't got a penny.
But if I no more whiskey, I have to go home. Said, brother, my cup is empty, and I haven't got a penny. But if I no more whiskey, I have to go home. I've been shining down rainbows, I've been swinging from the stars. Now this wretched beggar's clothing makes his cup across the bars. See, this cup of mine is empty, since I've been playing my desires. Start sweeping up the ashes of all my former fires. So my friend, my only brother, just turn and cover mine. At least I'm making whiskey, I have no need for wine. Brother, my cup is empty, and I haven't got a penny. But if I buy no more whiskey, I have to go home. Said, brother, my cup is empty, and I haven't got a penny. But if I buy no more whiskey, I have to go home. Well, I counted up my blessing, and I counted only one. One tiny little blessing, and now that blessing's gone. So buy me one more drink, my brother, and I'm taking it to the door. I'm taking it to the rain, I'm taking it to the floor. I'm a friend, my only brother, do not let the party greet me. Throw a dollar on the bar, then kiss my ass and leave. Brother, my cup is empty, and I haven't got a penny. But if I no more whiskey, I have to go home. Said, brother, my cup is empty, and I haven't got a penny. But if I no more whiskey, I have to go home.
Voilà, vous êtes toujours sur le 895 de Radio Dio à l'écoute de l'émission Papillon. Donc maintenant, on va passer au montage de l'intervention qui a eu donc mardi cette semaine. Donc en fait, c'était dans le cadre de la semaine contre les expulsions, semaine européenne contre les expulsions. Donc voilà, alors cette intervention de cet avocat était organisée par le collectif Sans Papier et le numéro 0 c'était à l'université Jean Monnet. Donc voilà, je vous laisse écouter puis on fera quelques petits commentaires après. Voilà, donc c'est parti.
Donc, je vais intervenir sur la question d'interpellation et de la garde à vue. Alors, c'est vrai que moi, mon activité professionnelle en tant qu'avocat, c'est notamment la défense des étrangers sur Lyon. Moi, je m'occupe donc de ce contentieux-là. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai souvent affaire à des situations dans lesquelles qu'on vient de rechercher si les contrôles d'identité et les interpellations, si les gardes à vue sont régulières. Parce qu'il y a une défense importante des étrangers pour les faire sortir du centre de rétention devant les magistrats, devant les juges, les moyens de les faire sortir étant essentiellement les conditions de... La plupart du temps, on invoque les violations par les services de police, des conditions d'interpellation, des conditions dans lesquelles ils ont été placés en garde à vue. Alors, moi, je vais aborder ces trois points, ces trois questions, c'est-à-dire contrôle d'identité, interpellation, garde à vue. Alors, c'est vrai qu'on a des problèmes, on a de nombreuses violations d'irrégularité, de violation des règles applicables en matière de procédure, notamment dans l'Ain, mais aussi dans la loi. Il faut savoir que la police, elle est sous l'autorité, enfin, les policiers, ceux qui interviennent, sont sous l'autorité du commissaire, avec des politiques pénales qui sont tout de même différentes selon les départements. Et ensuite de tout ça, on a le procureur de la République, qui est un magistrat et qui va contrôler l'intégralité de la procédure. Alors, concernant les contrôles d'identité, tout d'abord, dans quel cas, et je pense que c'est ça qui est important, dans quel cas des policiers peuvent contrôler l'identité d'individus. Alors, le cas le plus général, c'est le contrôle qui est effectué par les services de police, dès lors qu'il y a des raisons plausibles, enfin des soupçons qu'une infraction est en train de se commettre ou vient d'être commise. Dans quel cas un policier peut contrôler une personne de manière régulière parce qu'il considère qu'il y a des raisons plausibles qu'une infraction est en train de se commettre ou qu'il a commis une infraction, c'est en fait un peu subjectif. Le policier va devoir prendre en compte les circonstances ou l'attitude de la personne pour décider s'il va procéder à un contrôle d'identité. Alors, dans son PV, lorsque si le contrôle d'identité a abouti à une interpellation, parce que c'est l'objectif du contrôle d'identité, dans son procès-verbal, il indiquera ce qui l'a amené à contrôler l'identité de la personne, et le juge vérifiera si les critères étaient réunis, si le policier avait le droit de contrôler l'identité. Alors, par exemple, les contrôles d'identité sont réguliers. Dans ce cadre-là, c'est le cadre général. Par exemple, si la nuit, des policiers voient une personne rôder dans un parking autour de voitures, ça va être un cas qui va justifier, même si aucune infraction est visible, hein, ça va être un cas qui va justifier un contrôle d'identité. Alors, les policiers, ils peuvent avoir beaucoup d'imagination. Et c'est vrai que c'est là qu'on trouve une limite. C'est-à-dire que le policier peut toujours, après, en rajouter pour justifier a posteriori son contrôle d'identité. Alors que la personne, en réalité, n'était pas en train de regarder dans les voitures, le policier va affirmer dans son procès-verbal que la personne regardait dans la voiture. Et c'est assez imparable, parce que la parole du policier, elle a une force probante qui est supérieure. Voilà. Alors, dès lors qu'il y a un contrôle d'identité et qu'il n'y a pas de procédure d'interpellation qui suit, parce que la personne qui tourne autour des véhicules et qui regarde à travers les vitres, ils vont contrôler son identité. Alors, ça va s'arrêter là. Ils vont contrôler son identité, ça va s'arrêter là. Sauf s'ils constatent que la personne est étrangère et qu'elle n'a pas titre de séjour. Là, on est dans le cas où on va se servir d'un contrôle d'identité pour interpeller des étrangers. Il y aura une vérification, il y aura un PV d'interpellation qui devra détailler les raisons du contrôle d'identité et ensuite un contrôle du juge, seulement si le contrôle d'identité a débouché sur une interpellation. Donc, ça dépend aussi de l'intelligence du policier. Il y a des policiers qui n'arrivent pas à expliquer, qui ont du mal à expliquer les éléments qui les ont conduits à procéder au contrôle d'identité. Il y a des policiers qui n'avaient pas suffisamment d'éléments, mais ils ont vu un type qui avait une tête qui ne leur plaisait pas. Ils sont allés l'arrêter. C'est pas un fait justificatif. Ça ne justifie pas le contrôle d'identité. Alors, ils vont essayer de broder dans leur PV d'interpellation, justement en indiquant que ce type avait l'air d'un rôdeur ou ce genre de choses. Les motifs les plus ou moins invoqués, c'est dans une rue sombre, un type qui rôde autour des voitures, ou c'est ce genre de choses qui va. Ou alors d'autres faits, ça va être à notre vue le type va se retourner, va partir dans la direction opposée, en donnant l'impression qu'il a quelque chose à se reprocher. Alors, si on contrôle votre identité, vous ne pouvez pas refuser le contrôle d'identité. Il faut présenter un justificatif, n'importe lequel, mais un document qui justifie votre identité. Si la personne peut pas justifier de son identité, à ce moment-là, elle est amenée au poste et les services de police peuvent la garder 4 heures au poste pour obtenir son identité. Et si elle refuse, elle continue à refuser, ils peuvent exiger d'elle qu'elle donne ses empreintes digitales. Il y a des moyens après qui sont beaucoup plus durs. Et c'est vrai que refuser de donner son empreinte digitale, c'est une infraction pénale. Les contrôles d'identité sont très fréquents. C'est une manière aussi de mettre sur des quartiers, notamment, ou sur certaines catégories de population, c'est une manière de mettre la pression aussi, c'est évident. Les autres cas de contrôle d'identité, c'est d'abord le contrôle d'identité. Alors, on l'a dit dans toutes les gares, les zones aéroportuaires, ferroviaires, enfin, dans tous ces lieux, on peut contrôler dans tous ces lieux, dans les gares, toutes les personnes qui se trouvent dans un milieu fermé de la gare ou d'un aéroport ou d'un port. Il peut être contrôlé sans qu'il y ait justifié d'un comportement ou de circonstances qui pourrait donner l'impression aux policiers qu'une infraction est en train de se commettre. C'est un contrôle systématique dans les gares. Bon, avec l'idée que dans les gares, il y a beaucoup d'étrangers. C'est aussi ça, l'idée. Ou alors, peut-être, du trafic de stupéfiants. Parce qu'on demande toujours aux gens... Enfin, les policiers demandent toujours aux gens de vider leurs poches dans le cadre d'un contrôle d'identité. Ou alors, vont prendre un peu les devants. Enfin, c'est ce qu'on disait. Vont prendre un peu les devants et vont fouiller, même si c'est interdit. Vont fouiller la personne, vont la toucher ou lui mettre les mains dans les poches et vont trouver du cannabis. Non, mais ils ont le droit de toucher, pour voir s'il y a une arme ou un objet. Hein. Ils n'ont pas le droit de mettre les mains dans les poches ou dans le manteau, de mettre la main dans le sac. Ils ont le droit de demander à la personne de vider son sac ou de vider ses poches. Et les gens, alors la plupart des personnes le font, mais on a le droit de dire non, je ne le fais pas. D'accord ? Moi, je veux dire, c'est pas, je déconseille aux gens de dire je refuse un contrôle d'identité parce qu'il y a un risque que le policier s'énerve et imagine des choses qui n'ont pas été commises. Par exemple, la mode, c'est les outrages. Il va dire qu'il y a eu un outrage. Alors donc, il y a le contrôle général dont je vous ai parlé. Il y a le contrôle dans les gares, dans les aéroports, etc. Il y a le contrôle aussi dans les zones frontalières, mais ça ne concerne pas la Loire. Sur 20 km des zones frontalières autour de la France, il y a possibilité de contrôle d'identité systématique. Alors, il y a deux derniers contrôles qui sont très critiquables. C'est le contrôle qui est autorisé par le procureur de la République. C'est un contrôle de police administrative pour assurer la sécurité, la sécurité en général, ce qui laisse une très grande marge d'appréciation aux policiers, mais qui est très peu utilisé, sauf à Saint-Étienne, justement. Alors, il y a des contrôles qui sont autorisés par le procureur, c'est-à-dire que le procureur a le droit de fixer sur des périodes assez courtes, en général de 24 heures, a le droit de déterminer des zones, mais alors qu'on ne connaît pas à l'avance, des zones, c'est-à-dire, par exemple, sur quatre rues, sur une place, dans un quartier, sur lesquels on pourra contrôler l'identité de n'importe qui, de tous les gens qui s'y trouvent. Alors, le procureur doit utiliser cela avec parcimonie, mais en réalité, il y a peu de contrôle de l'activité des procureurs. En tout cas, à Lyon, ils le font, mais ils cantonnent ces zones à des lieux très déterminés. Donc, nous, les avocats, on les connaît. Donc, quand on doit conseiller des gens, on leur dit d'éviter ces endroits. Qui sont des endroits où très souvent il y a des contrôles qui sont autorisés, des contrôles systématiques de n'importe qui sont autorisés par le procureur. Par exemple, à Lyon, il y a des zones très précises. Je ne sais pas si vous connaissez Lyon, mais enfin, en tout cas, le centre-ville, il y a une dizaine de rues dans le centre-ville. Il y a un endroit qui s'appelle la place du Pont, si vous connaissez. C'est environ 4 ou 5 rues pour les sans-papiers, pour les gens qui ont quelque chose à. Qui n'ont pas envie de se faire contrôler, il faut pas aller sur ces zones parce que très souvent, les policiers ont l'autorisation du procureur pour contrôler de manière systématique. C'est pour mettre la pression aussi. Par exemple, sur la place du Pont, le procureur, toutes les semaines, il va faire, ou peut-être moins, deux fois par mois, il va faire une opération coup de poing pour mettre la pression et puis pour interpeller quelques personnes. Bon, il ne se passe pas grand-chose d'extraordinaire à la place du Pont, par exemple, mais ça va mettre la pression. Le dernier cas de contrôle qui peut avoir lieu, mais qui est très peu utilisé à Lyon, en tout cas, mais qui est utilisé donc à Saint-Étienne. Enfin, moi, je ne savais pas que ça existait de cette manière-là. C'est une loi qui est encore plus critiquable, mais alors qui est sévèrement sanctionnée, enfin, dont l'application est sévèrement sanctionnée par les juges. C'est un cas dans lequel le policier peut contrôler la personne s'il avérait, mais il faudra qu'il le justifie par la suite, s'il passe la personne en garde à vue, s'il avérait que dans l'endroit où il a contrôlé la personne, dans les jours passés, on a constaté la présence de délinquants ou d'infractions. Enfin, et donc, c'est ce qui s'est passé à Saint-Étienne. C'était ça, le dossier, là. Mais c'était énorme. C'est-à-dire que le commissaire de police, là, de Saint-Étienne, avait autorisé sur plusieurs hectares de Saint-Étienne, enfin, sur je ne sais pas si c'était la moitié, un tiers de Saint-Étienne, avait considéré, chiffre à l'appui, il avait fait des tableaux, etc., qu'il y avait beaucoup de délinquance, qu'elle avait augmenté... qu'il y avait de plus en plus de trafic de stupéfiants, etc., etc. Et donc, il avait autorisé tous les policiers à interpeller n'importe qui parce qu'il avait cet élément statistique justificatif. Voilà. Et alors, le juge, il a dit que ça valait rien, enfin, qu'on pouvait pas autoriser l'interpellation, enfin, le contrôle d'identité de n'importe qui sous prétexte que, depuis une semaine, il y a 100% d'infractions en plus. Parce que les 100% d'infractions en plus, c'était que la semaine d'avant, il y en avait une, et puis la semaine suivante, il y en avait eu deux. Sur un périmètre de 3 hectares. Alors, ce qui est beaucoup utilisé, c'est donc les contrôles des véhicules, puisque les policiers peuvent contrôler l'identité de n'importe quel conducteur, de n'importe quel véhicule. Et là, il n'y a aucune raison, aucune raison apportée. On peut arrêter, enfin, un policier peut arrêter un véhicule et contrôler l'identité du conducteur. Donc, pour quelqu'un qui est sans papier, on va lui dire de jamais conduire un véhicule, quoi. Voilà. Alors, pour les passagers, le policier va toujours dire que le passager n'avait pas sa ceinture pour justifier a posteriori un contrôle. Alors les gens souvent ils disent mais j'avais bien ma ceinture, alors on leur explique que la procédure serait nulle si le policier n'avait pas dit qu'il n'avait pas sa ceinture. Mais là, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, enfin, c'est très difficile de lutter.
Une question, oui, s'il te plaît, qui est vachement importante, notamment pour les sans-papiers. Ils sont régulièrement, en fait, on leur fait des convocations. La police fait des convocations sans donner le motif. Ceci dit, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à un témoin.
Voilà, alors.
Et si on ne s'y rend pas, qu'est-ce qu'on risque, en fait ?
Alors, si le policier envoie une convocation à quelqu'un, c'est qu'on est non pas sur une enquête de flagrance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un flagrant délit, une infraction n'a pas été constatée. C'est une enquête préliminaire qui dure depuis plusieurs semaines peut-être. Effectivement, on envoie une convocation à quelqu'un dans le cadre de cette enquête au long cours, si je puis dire. Et là, si on est sans papier, il faut... Enfin, on peut imaginer qu'on nous convoque parce qu'on veut vérifier notre identité. Donc il faut pas... Le sans-papier, s'il sort en commissariat, va être automatiquement arrêté.
Ça sera, mais c'est, du coup, est-ce qu'il y a un risque je ne sais pas, c'est considéré comme un délit, est-ce qu'il y a une obligation
à se rendre à une convocation ? Ah non, non, si on est convoqué au commissariat, et si on n'y va pas, ça ne constitue pas une infraction. Par contre, les policiers peuvent, si vous ne venez pas à la convocation, peuvent se rendre à vous. Et c'est là qu'on en est aux perquisitions. Ça peut concerner des sans-papiers, mais dans toute autre enquête, hein. La police peut se rendre chez la personne et à ce moment-là, la personne peut refuser d'ouvrir, ça ne constitue pas une infraction. Si ce n'est pas la personne qui recherchait qui ouvre la porte, les policiers n'ont pas le droit de rentrer dans l'appartement. C'est-à-dire que pour faire une perquisition, il faut avoir l'accord de la personne qu'on perquisitionne. De la même manière, pour une fouille au corps, enfin la fouille du sac ou la fouille des poches, etc., il faut l'autorisation de la personne. Alors, en pratique, c'est un document que la police vous remet, que vous signez. Je sous-signe, autorise la perquisition. D'accord ? Alors, ce qui se passe très souvent, en réalité, c'est que les policiers arrivent, on rentre chez vous, on cherche un tel, la personne les laisse entrer, parce qu'ils leur mettent la pression, et sur leur PV d'interpellation, quand ils vont après coup trouver la personne effectivement qui est cachée dans l'appartement, sur leur PV d'interpellation, ils diront on nous ouvre la porte, on nous invite à rentrer. Souvent on voit ça, on nous invite à rentrer. Voilà. Si un sans-papier par exemple ne veut pas se faire interpeller quand il est dans un appartement et que la police frappe à la porte, il faut pas ouvrir, c'est tout. Enfin, c'est pas une infraction. Ou alors ouvrir et dire vous avez un mandat de perquisition, vous rentrez pas. Enfin, ça se passe comme ça.
Le mandat, il peut.
Alors, avec un mandat de perquisition, mais qui est délivré par un juge d'instruction, ou dans certains cas par le procureur, mais ils peuvent entrer. Mais c'est extrêmement rare qu'ils aient un mandat de perquisition. Mais si on est dans le cas du flagrant délit, et c'est là que j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, si on est dans le cas du flagrant délit, c'est-à-dire le cas où l'infraction vient de se commettre, à ce moment-là, la perquisition ne nécessite pas le consentement de la personne. En pratique, comment ça se passe ? Parce qu'il y a la théorie et la pratique. En pratique, les policiers, ils entrent, ils mettent la pression, ils entrent. Et puis après, en repartant, ils disent à la personne, signez-la. Et puis la personne, elle signe parce qu'elle est terrorisée. Enfin, il y a des gens qui comprennent, des gens qui ne comprennent pas. Mais il y a peu de gens qui sont capables de dire je refuse de signer alors qu'ils ont en face d'eux 4 policiers. C'est tout, hein. C'est une réalité, c'est tout. C'est malheureux, mais souvent, enfin moi ce que j'ai vu c'est que les autorisations elles sont pas signées avant la perquisition, elles sont signées après coup. Et puis si à la limite les policiers s'ils n'arrivent pas à avoir la signature, eh ben il sait que sa procédure elle est morte parce que elle sera irrégulière vu qu'il n'a pas l'autorisation. Donc il peut, ou alors il dit bon, on essaye de faire passer le truc, peut-être que personne ne verra rien, ni l'avocat, ni le juge, ou alors il dit bon, ben, je relâche l'étranger si c'est un étranger en situation irrégulière. Alors après, si vous voulez, j'essaye de faire rapidement quand même la garde à vue, enfin les éléments qui sont essentiels. Quand quelqu'un est placé en garde à vue, il a le droit de ne rien dire, il a le droit de se taire. C'est-à-dire que c'est pas une infraction, on peut pas reprocher à quelqu'un de ne rien dire pendant la garde à vue, de rester silencieux, de ne pas répondre aux questions. Voilà. Parce que la police, en début de garde à vue, doit indiquer à la personne qui est gardée à vue les différents droits qu'elle a au cours de la garde à vue. Droit à avoir un avocat, droit à avoir un médecin, droit à faire appeler quelqu'un de sa famille. Et pendant une période, pendant très peu de temps, mais les policiers ont tellement, étaient tellement mécontents que ça a été supprimé très rapidement, la police avait l'obligation de dire aux personnes gardées à vue, qui, comme aux États-Unis, c'est fait aux États-Unis, on le voit dans les films américains, vous avez le droit de dire la vérité, ou, etc., etc., ou de vous taire, ou tout ce qui sera dit sera retenu contre vous, etc. Enfin, je ne sais pas, il y a une formule comme ça. Et enfin, pendant une période, il y avait les policiers avaient l'obligation de notifier à la personne le fait qu'elle avait le droit de se taire. Et que le fait de mentir, ce n'était pas une infraction pénale, etc. Et ça a été c'était supprimé parce que les policiers n'étaient pas contents. Alors les policiers, parce que les policiers veulent absolument faire croire aux gens, et c'est une atteinte au droit de la défense, veulent absolument faire croire aux gens que si ils parlent pas, il va leur arriver de gros ennuis, que si etc etc. Alors qu'en réalité, enfin ça change pas grand chose le fait de se taire ou de parler. Par exemple, il n'y a qu'un seul cas où quand on est face à la justice ou à la police, où mentir est une infraction. C'est quand un témoin est entendu par un juge d'instruction. Voilà. Mais mentir devant un juge d'instruction pour un examen, c'est pas une infraction pénale, heureusement. Mentir pour une personne devant les services de police, c'est pas non plus une infraction pénale, heureusement. On a le droit de se taire, on a le droit de mentir. Non, mais tout le monde a le droit de se tromper, de mentir. Enfin, après, l'essentiel, c'est de revenir sur ses déclarations. Et d'un point de vue des droits de la défense et puis de la légalité des armes entre des personnes qui sont enfermées entre quatre murs et puis la police, ça serait important qu'ils le sachent, les gens. Je pense à un cas, là, récemment, que j'ai rencontré. Si le type s'était tu ou alors avait demandé à un avocat ou à une autre personne d'être conseillé sur ce qu'il devait dire ou pas dire, il n'y aurait pas eu de conséquences catastrophiques. C'est un type qui est sans papier, qui est interpellé. Et qui la police va lui poser plein de questions, il va répondre, et même la police va lui dire « vous avez un employeur », etc. Alors, le type va dire « non, j'ai pas d'employeur », et alors la police va lui dire « si tu me dis le nom de ton employeur, on te relâche ». Et le type a dit « oui, parfois je vais travailler chez un tel ». Bon, le type finalement a été expulsé, et dans les jours qui ont suivi, la police est allée, chez l'employeur et... la placer en garde à vue pour travail illégal. La garde à vue, c'est un régime qui est extrêmement dur et qui amène les gens à dire des choses qui sont souvent très différentes de la réalité. Mais dans un sens comme dans l'autre, il y a des gens qui mentent super bien, il y a des gens qui mentent très mal et qui s'enfoncent, c'est ça que je veux dire. Pour toute une série d'infractions, les prises d'empreintes et les photos, c'est quasiment pour l'intégralité des infractions que c'est possible. Et si on s'y refuse, ça constitue une infraction pénale. Voilà. Donc toutes les personnes gardées à vue, auditionnées, sont fichées au stick. Qu'on soit mise en cause, qu'on soit victime, qu'on soit témoin, qu'on soit condamné ou pas condamné. Et donc le stick, c'est un immense fichier qui est accessible à quelques dizaines de milliers de policiers, qui recueille toutes les... tous les noms des personnes qui ont été interrogées. Ça, c'est le fichier le plus important, c'est un fichier tentaculaire. Et c'est vrai qu'il comporte des millions d'identités, de noms, avec à chaque fois témoin, victime, auteur. Alors parfois, ils se trompent, ils mettent l'agent qui remplit, mais ils se trompent, ils mettent auteur à la place de victime. Enfin, il y a plein d'erreurs dans ce fichier. Dès qu'il y a un contrôle d'identité, on va consulter ce fichier.
Pardon. Sauf l'ADN.
Alors l'ADN, c'est autre chose. L'ADN, initialement, ça avait été créé pour ficher les agresseurs sexuels, pour pouvoir, lorsqu'il y a une enquête, un viol ou ce genre de choses, pour pouvoir retrouver plus facilement la personne qui a fait ça. Maintenant, donc, ça concerne le vol, la dégradation, on casse une vitrine, les faucheurs volontaires, etc. Donc ça a été étendu. Et le refus, c'est aussi une infraction pénale. Mais ça, c'est assez terrorisant. Enfin, c'est assez, c'est vraiment horrible. C'est terrible, quoi, d'être fiché génétiquement, je trouve. Et c'est vrai que les mineurs sont fichés. Enfin, par exemple, j'ai un cas d'un jeune qui à qui on a reproché une agression sexuelle. Enfin, Ils avaient 16 ans, ils ont fricoté, etc. C'est pas aller plus loin que ça, quoi. Et puis il y a toute une procédure contre lui. Il était fiché. Finalement, il était relaxé, mais il était inscrit au STIC, il était fiché photo, empreinte digitale, empreinte génétique. Et c'est vrai que pour un gamin de 16 ans, mais même pour un adulte, hein, c'est complètement traumatisant. Parce qu'en plus, c'est conservé pendant. Alors, c'est 40 ans pour les empreintes génétiques, c'est 25 ans pour les empreintes digitales. Globalement, enfin, moi, ce que je dirais pour finir, c'est que la police, elle existe, elle a son sens, c'est évident, mais il faut encadrer de manière extrêmement stricte, de manière comme un carcan, l'action de la police, parce que y a une propension de n'importe qui, quand on a un peu de pouvoir, d'en abuser. Voilà, c'est tout.
Voilà, donc vous écoutez toujours l'émission Papillon. Donc je rappelle, là, ce qu'on vient d'écouter, c'était l'intervention d'un avocat mardi dernier lors d'une soirée sur la garde à vue. Donc voilà, c'est très intéressant, je trouve, ce qu'il a raconté. Je voulais juste revenir sur un truc, en fait, c'est que je ne suis pas du tout d'accord avec sa conclusion. On n'a pas eu l'occasion d'en débattre avec lui, mais moi, je pense pas que, enfin, je n'espère même pas qu'on puisse calmer les flics dans leurs abus de pouvoir, parce que je pense que c'est dans leur rôle, dans leur fonction même, de pouvoir d'avoir des droits et du pouvoir et d'en abuser. Donc, mais par contre, je pense vraiment que c'est super important pour nous de connaître nos droits, en fait, de connaître tout ce qui existe, parce que ça peut être un outil pour se défendre. Voilà, et puis donc lui, en fait, cet avocat là par exemple, lui il arrive à faire sortir pas mal de sans-papiers de centres de rétention à cause des erreurs de procédure. Donc c'est pas mal de noter un peu comment ça s'est passé et puis de voir avec son avocat s'il n'y a pas moyen. On s'est demandé si pour le pénal tu pouvais faire annuler une procédure à cause de défauts de procédure dans la garde à vue et tout. Et moi, il me semble qu'il y a moyen d'en tirer des choses, quoi. Et donc, mais en tout cas, ce qui ressort pas mal de ce qu'il a raconté, ce monsieur, c'est qu'il y a quand même de grosses différences entre la théorie, le droit théorique, et ce qui se passe dans la pratique, quoi. Et lui, il dit ce dont on a le droit, quoi. Et c'est vrai que des fois, dans la pratique, ben, le droit, les flics, ça s'assoit tellement dessus que si tu lui dis oui, mais j'ai droit de pas fouiller mes poches, tu peux te prendre une baffe, avoir des gros soucis, etc. Machin. N'empêche, les droits que moi je voulais rappeler en conclusion, c'est surtout et avant tout le droit de se taire en garde à vue, le droit de se taire pour les témoins qui sont convoqués, surtout devant la police, parce que les flics, leur but, c'est de vous faire parler et de vous foutre dans la merde et de foutre vos potes dans la merde, quoi. Le droit de ne pas ouvrir à des policiers qui perquisitionnent, sauf s'ils ont pris quelqu'un en flagrant délit, et sauf s'ils ont un mandat du juge d'instruction ou du procureur. Alors, en général, ils se foutent de votre gueule quand vous leur demandez t'as un mandat, mais n'empêche que c'est important, quoi. Et puis aussi, la possibilité de ne pas signer les documents. Il faut éviter à fond de signer les documents, surtout quand on est sous pression. Et voilà, là où je disais la grande différence entre théorie et pratique, c'est qu'effectivement, après, quand tu passes au procès, et ben même si tu avais tout à fait le droit de te taire en garde à vue, ben les juges, ils vont trouver ça louche. Ouais, pourquoi t'as pas parlé ou pourquoi t'as changé d'avis ? Ben ouais, c'est dur à dire, mais ouais, on a le droit, donc vraiment. Voilà, et bon, c'était pas encore hyper complet, je sais pas si c'était hyper clair, mais en tout cas, c'est un bon début, quoi. Faut s'informer. Voilà.
Wally Wallou.
Ah ben on enchaîne avec de la musique un peu sur ce thème. La rumeur, encore une fois, on les passe un peu tout le temps. Et puis la chanson, elle s'appelle « Je connais tes cauchemars ». Elle est très très jolie et mignonne.
Thank you. connais tes cauchemars au plus sombre du soir, quand ils rampent droit sous le voile froid de tes draps de soie, sans préavis, dès que la nuit leur a souri, y'a des griffes noires qui se marrent au bord de ton plumard. Elles aiguisent leurs dents grises sur ta nuque, ta chair blanche perruque, et l'odeur de la loi qui colle à tes robes de magistrat. Une lourde porte grince et s'ouvre, derrière un voile de soufre des visages se pressent, s'agglutinent en cercle des visages convexes, balafrés et muets. Une épine à l'échine, tu te sens blêmir, frémir, tu voudrais fuir, courir, mais tes chevilles ont des chaînes et tu trébuches puis te traînes, en couinant comme un goré perdu en pleine forêt. Et t'as à peine le cul au sol qu'une main sale t'attrape au col et te plaque les deux épaules sur un de ces bancs usés d'accusés. Te voilà sur la dalle d'un tribunal peu banal, tu reconnais tous les jurés, tu peux les revoir en ta mémoire. Tous ces voleurs de poules et de pommes fondront larmes sous la lame de tes jugements prononcés. Et aujourd'hui c'est jour de fête, c'est à ton tour de comparer. Tu cries pardon, tu cries à l'aide, mais rien n'y fait. Sur un tableau noir d'écolier à la craie, on te dessine une petite guillotine. Je connais tes cauchemars. Au plus sombre d'un soir, à l'envers de l'histoire, je connais tes cauchemars, je connais tes cauchemars, au plus sombre d'un soir, à l'envers de l'histoire, je connais tes cauchemars, Ce soir la nuit est sombre. Et tout le monde s'est décidé pour te travailler la couenne pendant des plombes et des plombes. C'est quand tu sombres dans les bras de Morphée que tu te prépares à morfler. Car les porcs dans ton genre, tu vas savoir ce qu'on leur fait. Je connais ce cauchemar qui revient chaque nuit. Et quand il rentre par effraction dans ton sommeil, je suis toujours avec lui. Et tu cours encore comme si au lever du soleil t'allais échapper à la mort. En attendant, tu traînes ton surplus de graisse avec lenteur. Putain, tu stresses et tu suintes le pastis et la puanteur. Aux alentours, personne pour entendre ta douleur. Tes appels qui résonnent et on te fait pire que ce que tu faisais pendant les gardes à vue. Comme celui que t'as tabassé pour des gens t'en as lu. D'ici tous ceux à qui t'as passé les fers donnent pas cher de ta chair et vont faire de ta nuit un enfer. Je l'ai promis frère, au menu c'est du commissaire. Et de l'entrée au dessert c'est du schmitt qu'on nous sert. Et comme bouc émissaire on pouvait pas trouver mieux. Tu peux crier, prier, appeler n'importe quel dieu. Sorcellerie, magie noire et vaudou. Et on fait bouillir la marmite et on danse autour sur une rythmique tribale. Ce soir j'ai la du cannibale et la rage de l'animal qui vise les parties vitales. Comment se porte le commissaire avec les organes à l'air quand on traîne ta carcasse jusqu'au prochain cimetière. Et toutes les sales races assistent à tes gémissements pendant que tu graves ton blase sur ta pierre avec ton sang.
Je connais tes cauchemars, je connais tes cauchemars.
Alors, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Papillon sur Radio Dio 89.5 FM. Donc, on va continuer avec une série d'événements en fait qui se sont passés donc dans la région, plus précisément à Saint-Quentin-Falavier, où le lundi 24 mai, une quinzaine de personnes du premier étage du centre de détention de Saint-Quentin ont refusé de réintégrer leurs cellules à l'issue de la promenade. En fait, ils protestaient contre leurs conditions de détention à cet étage parce que cet étage, justement, a un régime différencié par rapport aux autres étages du centre de détention. C'est-à-dire qu'à cet étage, les portes, en fait, restent fermées alors que, vu que c'est un centre de détention, normalement, elles devraient être ouvertes. Mais bon. Donc là, en fait, les détenus ont protesté contre ça. À l'issue de ce mouvement, la paix avec intervention des ERIS, donc on ne cessera jamais de rappeler que les ERIS, c'est les équipes régionales d'intervention et de sécurité, et que bah, c'est des robocops qui tapent, qui sont énormes et qui font mal. Et
en plus, ils sont cagoulés.
Et en plus, ils sont cagoulés, hein, alors que voilà. Bon. Et du coup, en fait, à l'issue de ce mouvement, eh ben, il y a l'AP, elle a rien trouvé de mieux que trouver trois meneurs. Hein, il lui faut toujours des meneurs. Et du coup, eux, d'office, le lundi 24 mai, ils ont été placés en prévention quartier disciplinaire. Donc deux jours plus tard, ils sont, le mercredi, ils sont tous les trois passés en commission de discipline au prétoire. Et ils n'ont pas eu droit à un avocat. Et ils ont été sanctionnés respectivement, donc avec les deux jours qu'ils avaient fait, de 20 jours de confinement, enfin, 20 jours, un autre 20 jours de mitard, donc confinement en cellule, hein, l'autre 20 jours de mitard et 10 en plus avec sursis. Et le troisième aussi 20 jours de mitard. Et ils ont été transférés dans une autre prison de la région. Alors là, on ne sait pas si c'est de la région ou quoi, le samedi 28. Donc voilà, sans autre forme. Le lendemain, la paix, elle n'a rien trouvé de mieux, une fois de plus, que de priver tout le monde, toutes les personnes détenues au premier étage, de promenade. Voilà, donc comment monter aussi un peu les gens, les prisonniers les uns contre les autres, au final. Le mercredi 26, le lendemain, donc il y a une embrouille qui éclate entre deux personnes détenues et quatre surveillants pénitentiaires. Alors bien sûr, dans les journaux, on entend que pour les surveillants, c'était un bain de sang, mais on ne va pas leur faire de pub. Mais donc du coup, suite à ça, ceux qui n'ont jamais le dernier mot, c'est les prisonniers. Donc ils ont été placés immédiatement en garde à vue et ils sont passés en comparution immédiate sur le champ. Et l'un d'eux, en fait, à l'audience, il raconte en fait comment il a été tabassé par les surveillants après l'embrouille, et ça en dehors des caméras. Donc ça, généralement, ils savent bien faire, hein, les dissimulations de baston, de tabassage, etc. Ça, les matons savent faire. Donc à l'issue du passage en comparution immédiate, ils ont été transférés immédiatement dans deux autres établissements de la région. Donc voilà, et là on peut se demander si, admettons, les familles elles ont été informées. Enfin, généralement ça se fait assez rapidement et les familles elles suivent pas trop ce qui se passe et pas immédiatement en fait. Et donc en fait on apprend que le jeudi 27 mai les IRIS ils étaient toujours présents sur l'établissement, donc ça veut dire que les IRIS, donc ces Robocop cagoulés et voilà, qui sont restés toute la semaine à Saint-Quentin-Fallavier. Donc ça crée un climat de sécurité pour les prisonniers, on ne peut pas en douter. Donc voilà. Et en fait, Elsa, tu veux rajouter un truc là ?
Ouais, en fait, moi, je voulais juste rajouter que les différences de traitement et de régime selon les étages et les bâtiments, ça existe à la Talo aussi. Plus t'es sage, enfin, c'est vraiment un régime en plus de carottes et de bâtons, quoi. Tu montes en grade si t'es sage et t'arrives dans les étages où c'est plus calme, où il y a des cellules beaucoup plus confortables et tout. Et à Roanne, c'est pareil. Alors, je suis pas tout à fait sûre, mais c'est ce qu'un détenu de là-bas m'avait expliqué. C'est pareil, t'as un étage où t'as les portes ouvertes et puis si t'es pas sage, tu redescends vite à l'étage où t'as les portes fermées, etc. Enfin, c'est un peu partout et c'est vrai que c'est dégueu, quoi.
Et du coup, en fait, alors je sais que Payoub, t'as une autre info qui rejoint celle-là, en fait, et puis peut-être qu'on va la donner maintenant, ouais. Et après on fera une analyse des deux, en fait.
Ouais, enfin, en fait, ouais, toujours pour rester dans le local. Ça s'est passé, il y a eu une audience donc le 1er juin au tribunal correctionnel de Roanne par rapport à des faits qui se sont passés en détention. Alors c'est des faits je trouve assez hallucinants. Le premier cas en l'occurrence, c'est le cas d'un détenu qui, alors ça c'était pour des faits qui s'étaient passés à la maison d'arrêt de Villefranche. C'est un détenu qui est originaire de Haute-Savoie et que du coup quand il a pris son transfert donc au centre de détention de Roanne, était pas content parce que du coup ça l'éloignait de sa région d'origine. Bon, après toutes les conséquences que ça peut avoir sur ses parleurs, etc. Donc il s'est énervé et en l'occurrence il aurait mis un coup de pied dans une porte. Donc voilà, un geste d'énervement. Il met un coup de pied dans une porte, sauf que pas de chance pour lui. Derrière cette porte, il y a un surveillant. Donc voilà, il passe du coup, alors ça c'était des faits qui s'étaient passés le 20 mai, donc il passe au tribunal le 1er juin et il prend pour ça 3 mois de prison ferme en plus. Donc pour soi-disant, alors ça c'est sorti dans la tribune Le Progrès, hein, c'est sorti pour des faits de violence sur surveillant, quoi. Donc en précisant après dans l'article violence sur surveillant, alors que c'est juste on met un coup de pied dans une porte, il y a un surveillant derrière. Donc on prend 3 mois ferme en plus pour ça.
Précise que c'est le tribunal à l'extérieur, quoi.
Oui, enfin, le tribunal à l'extérieur, oui, bien sûr. Oui, le tribunal correctionnel, correctionnel de Rouen. Exact. Ouais,
plein
c'est
de
ça.
Gens, quoi.
Voilà. Alors le même jour, il y a une autre affaire. Avec cette fois, alors ça s'est passé au quartier des femmes, au centre de détention de Rouen. Ou pour simplement 2 injures. Alors c'est pour des faits qui sont passés en décembre 2009. Pour 2 injures à 2 reprises sur des surveillantes, une détenue prend 3 mois de prison ferme en plus. Donc voilà. Il se trouve que ça c'était un peu avant le mois dernier. Ça s'est passé en avril. Il y a un autre détenu donc toujours au centre de détention de Rouen. Qui pour un outrage à surveillant apparemment on lui refusait l'accès d'un bâtiment. Je sais pas préciser exactement quel bâtiment et quel accès il y avait qu'est-ce qu'il y avait dans ce bâtiment, mais en gros donc là il s'énerve, outrage à surveillant, on n'en sait pas plus, sachant que voilà les notions d'outrage comme pour outrage à agent, comme l'a dit l'avocat qu'on a eu avant, outrage à maton, ça peut être on peut avoir beaucoup d'imagination, ça peut aller très vite. Donc voilà, donc ça c'est la première affaire. Deuxième affaire, donc c'est une semaine après, ce détenu de Rouen là rentre de promenade et là il voit sa cellule qui a été fouillée, qui a été mise complètement en désordre. Donc voilà, ça fout les boules, comme je pense que ça arrive assez souvent, ça fout les boules. Donc il a reconnu les injures au tribunal correctionnel, il reconnaît les injures, mais il y aurait eu une bousculade, alors c'est ce qu'ils appellent violence, c'est une bousculade. Il nie avoir bousculé le surveillant. Bon après que ça ait eu lieu ou pas, voilà, toujours est-il que à cette audience, en plus de ça, du coup, il a pas pu être défendu par son avocat parce que il était bloqué, son avocat était bloqué dans une autre affaire, donc son avocat a pas pu plaider pour lui. Et là, ce détenu reprend 2 ans ferme pour un outrage à surveillant et soi-disant, enfin 2 outrages à surveillant et une bousculade. Donc ce qui est quand même assez impressionnant. Le juge, d'ailleurs, moi j'ai bien aimé le petit commentaire du juge qui lui dit si tous les 3 mois vous prenez 6 mois de prison, vous ne sortirez jamais. Voilà.
quel esprit,
quel humour. Donc voilà. Alors ce qui est apparemment, donc du coup, enfin au moins si c'est vraiment le cas pour Rouen, apparemment il y a vraiment de plus en plus, il y a pas une semaine où il y a pas d'audience qui concerne justement des problèmes qu'il y aurait entre surveillants et détenus au tribunal de Rouen.
Mais aussi ces problèmes, on nous dit que ce sont des problèmes,
soi-disant problèmes, sachant qu'en plus
les mots entre les personnes, il y en a, je pense, beaucoup, enfin c'est souvent quand même.
Oui, voilà, je pense qu'en détention ça arrive assez régulièrement et du coup voilà, et sachant qu'en plus, alors pour le premier cas que j'ai dit là, celui qui a pris 3 mois pour la porte, l'histoire de la porte, il avait déjà pris en plus une sanction disciplinaire de, alors si je me trompe pas, je crois que c'était 10 jours, 20 jours de mitard. Donc 20 jours de mitard plus 3 mois ferme pour avoir poussé une porte. Donc voilà, alors après la question qu'on se posait justement, c'est que on a ce sentiment là, donc au moins à Rouen, on sait pas ailleurs, mais que de plus en plus pour des faits qui ont lieu à l'intérieur de la détention, ça passe par les mains de la justice et du coup on passe en procès en tribunal correctionnel, etc. pour des faits qui sont passés en détention. Et moi j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus. Et justement, on aimerait avoir vos témoignages par rapport à ça, si c'est le cas, par exemple à Corba ou à la Talo, si vous avez eu des cas comme ça, pour des petites embrouilles avec des surveillants, on prenne des peines qui sont quand même hallucinantes, quoi, qui vont quand même de deux ans de plus. Et je pense que oui, il y a eu des cas qu'on a eu, par exemple, dans cette émission, on a eu plusieurs cas avec des gens qui commencent par faire des petites peines de 6 mois et qui finalement, ils restent des années pour des problèmes qui se passent à l'intérieur de la prison, quoi.
Et donc, c'est ça, justement, qui est inquiétant, c'est que, le fait que ce soit jugé en extérieur, il rallonge les peines. Alors que pour un outrage, bon, et les gars s'énervent, enfin bon, tout le monde s'énerve, ça pourrait être réglé à l'intérieur par, comme ils ont l'habitude de faire, par des sanctions, c'est-à-dire soit du mitard, soit des choses comme ça.
Mais
Ouais, et du coup, ça rajoute pas de la peine. Alors que là, ce qui est inquiétant, c'est que ça rajoute.
Ouais, ouais.
Et on est toujours dans ce système où on rajoute sur déjà des peines existantes.
Ouais. Mais déjà, en fait, c'est questionner aussi pourquoi il y a ces... Il y a ces histoires, en fait. Tout simplement, c'est que c'est lié à la vie en détention et que les craquages, bah, ça arrive et que ça, déjà, le fait que ça soit sanctionnable par un mitard, c'est déjà dégueulasse en soi. Donc, effectivement, il y a ça qui se rajoute, mais déjà, à la base, c'est dégueulasse, en fait.
Ah bah bien sûr, oui. C'est pour ça que... Voilà. Moi, j'appelle pas ça des problèmes, quoi. C'est des choses de la vie quotidienne. Ouais. Ils vivent entre eux.
Et deux trucs aussi, c'est que, donc, auparavant, ce qui était classique, c'était... que pour un problème de discipline en détention, tu passais donc au prétoire, le truc disciplinaire interne. Et donc, l'autre risque, donc tu pouvais aller au mitard, mais aussi ça niquait quand même tes remises de peine.
Ouais.
Donc, ça allongeait en partie la peine, ouais. Mais là, ça la rallonge encore plus, quoi. Et l'autre truc, c'est ce que j'ai l'impression, c'est aussi quand ils trouvent des stupéfiants, avant, t'allais au prétoire et au mitard. Et maintenant, en plus, ils te rajoutent un procès. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ça se généralise, mais c'est vraiment hallucinant.
Justement, localement, ce serait bien de savoir, parce qu'après, je suppose que peut-être il y a des différences. Mais, et en plus, juste pour ajouter, c'est que le 31 août, le détenu qui a pris 2 ans ferme en plus repasse en procès pour des faits similaires. Donc voilà, ce serait peut-être bien de...
Non, bah nickel, ça veut dire que les surveillants vont bien arrondir leur fin de mois comme
oui,
ça. C'est un bon business, hein, l'outrage et rébellion. Ils copient la police, là, en ce moment.
Je suppose qu'ils doivent... Peut-être... Ça, c'est pas précisé, mais est-ce que ça arrive qu'ils aient des dommages et intérêts pour des cas d'outrage ou de violence, entre guillemets?
Généralement, l'amende est là.
Moi, je me dis que le seul intérêt, même si en fait... c'est grave de repasser en procès pour tous ces petits problèmes disciplinaires. Le seul intérêt, c'est peut-être que bah, ça vaut le coup d'aller traîner dans les tribunaux pour soutenir les prisonniers qui passent en procès et pour voir ce qui se passe. Au moins, on peut jeter un œil de dehors.
Et du coup, en fait, un autre truc, c'est que le décompte de tous ces outrages et rébellions en prison, en fait, ça fait qu'alimenter les arguments à la con, comme quoi les détenus sont plus dangereux qu'avant, etc. C'est tous nique ta mère, c'est machin. Il n'y a plus d'esprit de grand banditisme, je ne sais pas quoi, de voyous aristocrates. Et que maintenant, en gros, tu n'as que des espèces de délinquants qui ne respectent pas l'autorité. Et que ça peut participer aussi à ça, quoi. Donc voilà.
Voilà. On fait une petite pause musicale.
Tout à fait.
Et ben allez, c'est parti.
Remember our days of slavery, our people sold out to Babylon. They tried to trick us out of our land, but not the dreads, don't go back to Babylon. Not the don't go. Remember the pain and the suffering, judge our children there in Babylon. They tried to change our power plans, so not the dreads, don't go back to Babylon. Not the shall be dread. Naughty dread, naughty dread, naughty dread, naughty don't go. I beg you, naughty dread, naughty dread, naughty dread, naughty don't go. King Jesus was sold out for 30 pieces of silver. Martin Luther King also, he was a blessed man, yeah. Remember for Marcus Garvey, he was a predictor. Brother Paul Bodo, he fought so hard to save his life. Yeah. So I beg you, dread, naughty dreads, naughty dreads, naughty don't go. No, 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 no. I beg you, dread, naughty dreads, naughty dreads, naughty don't go. Of slavery, our people sold out to Babylon. No, they tried.
cross out of our land, but not each way.
Pousse la chansonnette, oui, c'est la chorale, c'est atelier chorale. Donc, bah, vous n'êtes pas à l'atelier chorale, mais à l'écoute de l'émission Papillon sur Radio Dio 89.5 FM. Et ben, en fait, on souhaitait revenir sur un événement qui s'est passé récemment à Saint-Étienne. Hein, on reste très local aujourd'hui. Et en fait, on voulait du coup revenir sur Parole et Musique en Liberté, donc qui est le festival organisé par Parole et Musique, le gros festival de musique locale, et la maison d'arrêt de la Talaudière. Ce festival donne lieu à des concerts aux quartiers hommes et femmes de la maison d'arrêt et à des ateliers d'écriture pour les hommes uniquement. Les femmes n'écrivent pas. Donc en fait, elles ne tricotent pas non plus. Donc, cette action qui peut paraître louable, hein, concerts, ateliers d'écriture, et surtout vu les discours rassurants qu'a pu porter l'administration pénitentiaire et le milieu artistico-culturel local par le passé, hein, dans des réunions publiques. Voilà, nous, on a essayé de creuser un peu tout ça et on a trouvé que c'était quand même un peu dégueulasse, ce dispositif de parole et musique en liberté. Parce que contrairement à ce que dit le titre, la parole des prisonniers, elle n'est jamais libre. Et elle est de fait censurée par la loi. Une personne enfermée, c'est une parole enfermée. Donc il n'y a pas d'échappatoire à ça. Du moins par des dispositifs officiels. L'autre pan qu'on a questionné aussi, c'est les interventions culturelles en prison. Parce qu'en fait, elle participe à un véritable business et elle enferme les prisonniers dans l'image de l'ignare, hein, qu'il convient de civiliser, de réinsérer par la culture. Ce que disait Parole et Musique, hein, c'était de faire découvrir l'écriture à des prisonniers. Donc voilà, visiblement, c'est des ignares. Voilà. Et du coup, à ce sujet, nous, à la base, on avait créé un 8 pages donc, qui s'appelait Parole et Musique en liberté surveillée. Mais aujourd'hui, plutôt que de vous en faire la lecture, hein, parce que des fois la lecture c'est un peu chiant, ben, on a choisi de vous faire une autre lecture en fait. Et c'est une retranscription qu'on a, c'est tiré d'une cassette qu'avait édité L'Envolée, donc un journal anticarcéral. Et sur cette cassette, on trouve un récit fort intéressant sur la prise en charge des activités socio-culturelles à la maison centrale de Saint-Maur dans les années 80. Et les personnes qui en parlent étaient justement les premiers concernés, les prisonniers, qui reviennent en fait sur cette expérience. Parce que justement, alors que des dispositifs officiels comme Parole et Musique infantilisent en fait le détenu et en fait les détenus subissent ces ateliers, ils ne les ont pas choisis, ça ne vient pas d'eux. L'expérience de Saint-Maur contrebalance en fait tous ces discours et montre comment à travers le socio-culturel on peut poser un rapport de force, du moins par le passé, et si on a le temps pour voir aussi comment ça se passe aujourd'hui, et les prisonniers gagnent en autonomie parce que c'est loin d'être des ignares et des demeurés, quoi. Donc du coup voilà, on va vous commencer cette lecture.
Juste à préciser, je sais plus si tu l'as dit parce que je planais un peu, que ce témoignage-là qu'on va lire, en fait, ça se passe quelques temps avant qu'il y ait une énorme émeute qui éclate donc à la centrale de Saint-Maur.
Non, tu es très attentive, je ne l'avais pas dit. Je ne l'ai pas. Donc du coup, on va vous faire la lecture. Ouais, et voilà. Et cette émeute, en fait, elle avait complètement détruit la centrale. En fait, il restait plus rien de cette centrale. Alors, on vous en fait la lecture. Il y a ce quartier socio-culturel. On voulait y accéder et y aller. On était alors athéos, c'est-à-dire des mecs qui faisaient des études dans la population pénale. Donc on a eu une certaine légitimité et on a montré la capacité de prendre un territoire tout simplement. On a dit, on veut gérer le socio, on veut donner des cours. Et il y a Gaston, un prisonnier qui donne des cours. Pour les EB, c'était compliqué. Il fallait que Gaston donne des cours de sciences naturelles, qu'il ait des souris, qu'il dissèque des souris, qu'il ait donc un matos dangereux, un microscope, des conneries comme ça. On donnait aussi des cours d'alphabétisation de français, des cours de ceci et de cela. On demandait aussi qu'il y ait plus de profs qui viennent. Et puis on a dit, on veut faire un journal qui sort à l'extérieur. On nous a répondu, non, c'est pas possible. Bon, bah, ça fait rien, on va en faire un qui est à l'intérieur. Il s'appelait le Grouillot. On le faisait gratos, j'ai la collection complète.
On s'était aussi aperçu que l'AP nous prélevait un impôt d'un franc. On était 400 détenus, donc 400 francs multipliés par 12 mois, en tout, ça fait du pognon. Après, l'AP prélevait des cotisations sur toutes les activités, le cinéma, la musculation, etc. On a dit d'accord, mais à condition d'avoir un droit de regard sur la gestion de tout ça. On a donc monté un comité dans lequel on était coopté, puisqu'on n'avait pas le droit d'être élu. Et donc on y a participé avec un éducateur et Sumac. Avec les copains, on a fait des AG, et du coup ça ne passait pas comme un rassemblement séditieux. On a fait une véritable co-gestion, d'où le reproche de certains. On voulait faire rentrer du monde, beaucoup de monde, et on a mis en place un système de conférences par le biais du copain Gaston, qui faisait venir des mecs de l'EHESS. Ça, c'est une haute école universitaire de sciences sociales. Gaston, il était branché avec Edgar Morin. De ses conférences, on a édité un bouquin. Pour nous, les conférences étaient un truc très important. Les types, c'était des pointures. Les matons venaient avec intérêt. Pas en mal, ils venaient écouter. Pour les copains qui étaient fanas de musique, on a fait venir des tas de chanteurs, comme Maxime Le Forestier. On a vraiment gagné sur les rapports de force.
Tout ça a été possible parce que l'AP a été totalement déstabilisée par l'arrivée des socialistes au pouvoir. Les incointances politiques des plans de carrière des personnels de l'AP s'écroulaient. Ils n'avaient donc plus leurs repères habituels et donc ils étaient prenables. Avec Gaston, on a monté l'atelier ordinateur. Un vrai truc sympa. On apprenait à fabriquer des logiciels, donc c'était quand même subversif. Pour l'AP, on allait trop vite. Elle n'y comprenait rien et redoutait qu'on prenne du matériel. En plus, il y avait des copains qui ont été formés. Par exemple, l'un d'eux n'avait pas fait d'études, mais avait flashé sur l'informatique. À un moment donné, le mec qui nous chapeautait était responsable de l'intelligence artificielle au CNRS, un ponte. Il nous avait confié à son adjoint, un jeune polytechnicien. Il formait le copain au logiciel et lui disait « Écoute, te fais pas de soucis pour ta réinsertion. » Et le copain lui répondait « J'en ai rien à foutre. » Avec des rires. Ce copain mettait sur ordinateur toutes les cartes routières de France. Et lui, il voyait le truc de manière pragmatique. Voilà, j'attaque telle banque, les sorties c'est là, les sens uniques c'est là, etc. Elsa ?
Ah bon ?
Ah après... non, excuse-moi. Merde.
Très sérieux.
Après, tout ça s'est arrêté avec l'usure. Avec l'abolition de la peine de mort, on s'est aussi rendu compte que les peines grandissaient. Et puis, il y a eu la télévision et les aménagements de la détention par Badinter. Ça a marqué la fin d'un truc. On a été virés du socio. À propos des conférences, l'AP ne voulait plus qu'on gère les rendez-vous et donc les relations avec les mecs de l'EHESS. L'AP voulait pouvoir décider des dates eux-mêmes, ce à quoi on était opposés. On a été virés du socio-culturel en 87 et l'émeute s'est produite 6 ou 9 mois après. Effectivement, les copains disaient qu'on gérait la tôle, et c'est sûr. Pour beaucoup de mecs, on était devenus une sorte de repère. Bien ou pas bien, on encourageait les mecs à ce qu'ils lisent le plus possible. Pour nous, t'étais pas obligé de faire des études, mais si tu voulais en faire, on pouvait marcher à plusieurs. T'étais pas tout seul, si tu en faisais, on filait un coup de main, on s'aidait. Ça veut dire beaucoup quand t'es là-bas.
Je veux dire que vous êtes des cons. Parce que maintenant, la prison, elle est facile, elle est douce. Il y a la téloche, les parloirs. Et parce que maintenant, voilà, on va faire 20 ans, on va faire 30 ans. Il faut pas que ce soit tout dur. Si c'est plus dur, on va se révolter. À l'époque, il y avait des grâces si tu obtenais des diplômes. Et ça, c'était assez motivant. À chaque fois, tu croquais 3 mois. Moi, j'étais rentrée avec le CEP, j'ai eu une licence, etc. Pour ceux qui n'avaient pas les capacités, ils passaient des CAP. Puisque tout diplôme permettait 3 mois de remise de peine. J'ai fait une étude pour une espèce de thèse universitaire et ces 3 mois, c'était une démarche d'érosion de la peine. Voilà, il fallait éroder la peine pour limiter la casse. Ce n'est plus le cas maintenant. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les mecs qui ne savaient ni lire ni écrire, qui étaient complètement paumés, et puis qui auraient bien voulu aussi croquer comme ça 3 mois par-ci, par-là. On avait monté un système de tricherie à l'intérieur de la prison. Donc, quand tu passais les examens, t'étais tout en haut, au dernier étage, complètement isolé. Les zigotos en question retranscrivaient à toute vitesse les questions et les envoyaient avec un filet. On récupérait le truc, on partait vite au socio-culturel chercher les réponses dans les bouquins, on recopiait les réponses et boum, t'avais un autre coureur qui repartait. Toc, il rattachait le fil et hop. C'était tout un réseau et on disait à tout le monde « Vas-y, passe un examen ». Cette période, ça a duré 2 ans et demi jusqu'en 85 et cette auto-organisation s'est arrêtée à cause de transferts. C'est un peu parti en déliquescence à un moment donné. Il n'y a pas eu d'événement précis. Dans toutes les tôles, normalement, t'as une association socioculturelle et sportive. C'est par ce biais-là qu'on a réussi à rentrer et façonner une structure informelle où on se cooptait pour co-gérer les cotisations avec la direction. C'était très important, c'était une manière de se réapproprier, de peser sur le fric. C'est énorme si l'usage n'était pas forcément celui qu'on avait souhaité. D'être un interlocuteur, ça amenait la direction dans le sens qu'on voulait. Donc voilà, donc ça c'était le récit d'une tentative de prise en main de l'organisation du socioculturel à la centrale de Saint-Maur dans les années 80. Donc on a un petit peu le temps de revenir sur notre affaire de culture en prison.
Alors du coup, ouais, la première question qu'on se disait, peut-être qu'on voulait éclairer, c'était pourquoi la parole en prison, elle n'est jamais libre en fait. Alors je ne sais pas, Elsa, tu veux y répondre?
En fait, ouais, c'est juste pour repréciser... des choses qui sont peut-être pas évidentes pour tout le monde, mais c'est que vraiment concrètement, les prisonniers, leur parole est vraiment pas libre. Tous les écrits sont lus et voire censurés si, soi-disant, ils portent atteinte à la sécurité de l'établissement ou à la réinsertion du détenu. Les prisonniers n'ont pas le droit de faire sortir des écrits qui ont destination à être publics. Donc heureusement, ils trouvent des moyens de le faire quand même. C'est clair et net que s'ils veulent raconter autre chose que des comptines pour enfants dans leurs écrits publics, eh ben, ça passe tout de suite vachement moins bien. Et il y a quand même l'exemple quand on avait interviewé 12 mai qui faisait des ateliers pour paroles et musique l'an dernier à la Talo, il avait clairement dit, et des détenus nous l'ont dit aussi, que les textes qui étaient écrits, qui étaient déjà pas très subversifs, ils avaient été censurés, entre guillemets, déjà ils étaient très sélectionnés. Et en plus, dès qu'il y avait un truc qui passait pour grossier ou je ne sais quoi, c'était censuré. Après, c'était publié dans un livre. Donc, il fallait quand même pas que les prisonniers parlent librement dans ce livre. Voilà.
D'où on appelait ça « Parole et musique en liberté surveillée », notamment.
Oui, quel jeu de mots formidable.
Et puis, comme on disait tout à l'heure, quand on parlait de la brève de Rouen, là, quand les héris, ils vont dans les cellules, ils fouillent tout, ben, si t'as des écrits perso, enfin, même pas destinés à la publication, quoi. Je sais pas, un journal ou je sais pas quoi. Mais les héris, ils ont le droit de regarder, de lire. Voilà, enfin.
Tu peux passer des années à écrire un bouquin sur ta vie, par exemple, ou je sais pas quoi, et puis qu'un jour ils disparaissent, quoi.
Eh ben ouais.
Donc déjà, c'est pour ça que nous, on trouve que c'est hyper important de faire sortir d'une manière ou d'une autre la parole des prisonniers, parce que là, nous, on a la chance de faire blablabla, mais vraiment, c'est important d'entendre ce que les prisonniers ont à dire et de pas trop le déformer, quoi.
Bah surtout que par rapport, quand tu disais que si les prisonniers sont pas là pour raconter des comptines pour enfants, enfin ceux qui décident de parler des conditions de détention, etc., ou même de faire un mouvement, enfin... On a un exemple concret du directeur de la Talaudière qui lui aussi, donc Monsieur Scott, hein, qui quand il était à la maison de Villefranche-sur-Saône, directeur adjoint, là aussi il avait fait un bon sabotage de la parole des détenus, qui avait fait un mouvement hein, pour protester contre une atmosphère d'extrême droite au sein de cet établissement, pour avertir des conséquences violentes que cela pourrait entraîner, et pour protester contre les exactions et les expéditions punitives, la discrimination raciale et religieuse, etc. Et M. Scott, hein, il avait répondu « Les termes employés sont purement calomnieux et diffamatoires. J'espère que l'administration centrale prendra les mesures nécessaires pour apporter réparation au personnel mis en cause. » Donc Scott, il n'est pas du tout du côté de la parole des détenus.
Voilà, ensuite, on a creusé un peu sur ce que c'était concrètement et réellement les activités culturelles en prison, et notamment à la Talo. Donc déjà, merci beaucoup aux gens... dehors comme dedans, qui nous ont fait tourner des infos. Ça a été très précieux. Et en fait, Donc il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait que il y a les associations socioculturelles, donc il y en a dans toutes les prisons, je crois. Et elles servent à financer un peu les activités, apparemment, en partie. Et surtout, elles prennent leur fric sur les prisonniers en gérant les locations de télé, de frigo, tout ça. Et alors ça représente 23 euros par mois et par détenu. Donc quand on sait, les détenus sont vraiment très pauvres et appauvris par la prison. Donc voilà. Et bon, après, ils ont pas l'air hyper satisfaits des trucs qu'on leur propose avec leurs sous, quoi. Et ce qu'on a appris, c'est qu'à la Talo, les prisonniers ont le droit de participer au conseil d'administration de cette association. Et ils sont censés être informés des comptes rendus des conseils d'administration, des réunions de ce CA, de cet asso. Donc voilà, apparemment, vous êtes censés en être informés. Apparemment, vous l'êtes peut-être pas, mais sachez-le, si vous voulez, vous pouvez aller au CA de l'asso et proposer des choses. Voilà, en théorie en tout cas. Et sinon, un peu concrètement, les activités culturelles donc sur lesquelles certaines associations se font une belle image à l'extérieur, il faut bien savoir que c'est en général assez pauvre, c'est vraiment pas souvent. L'AP, elle sélectionne les détenus qui vont y participer. En général, ils sont pas plus de 4, 5, 6 à y aller. En plus, la bonne blague, c'est ça, c'est des intervenants qui nous l'ont raconté dans plusieurs cas, c'est que si les surveillants oublient malencontreusement, volontairement ou non, d'appeler un prisonnier, il n'est pas appelé et il ne se rend pas à l'atelier. Donc, très sympa. Et voilà, je voulais dire un autre truc, mais je ne sais plus.
Et qu'en fait, il y a un business, il y a aussi, et que ces associations, elles ont, qui interviennent en prison, elles ont des lignes budgétaires, en fait. Elles font des demandes de subventions pour ça et qu'elles vivent sur ça aussi, en partie du moins. Mm. Et en fait, quand elles font les demandes de subventions, elles demandent une sub dans la ligne public empêché. Et public empêché, ça regroupe les vieux, les malades, les handicapés, etc., et les prisonniers. Et donc, ça cache vraiment une réalité aussi qui n'est pas du tout la même, qui est celle de la réalité pénale, judiciaire, qui est celle de la répression, etc. Donc voilà, le mot prison, il est devenu grossier.
Pour ajouter un exemple sur le business, là, il y avait l'histoire qui est sortie récemment sur l'association...
La SODAS, de Fleury-Mérogis.
Voilà, de Fleury-Mérogis, qui avait un magot de, je ne sais plus,
800 000 chiffres. Euros. Voilà. Et qu'ils disent, on a trop d'argent, on ne peut pas le dépenser. Voilà. La bonne blague. Et oui, vas-y.
Un dernier truc, en fait, c'est aussi que cette culture qui est amenée entre guillemets en prison, c'est pas forcément ce que les prisonniers eux-mêmes souhaiteraient faire, quoi. Et alors c'est marrant, on a eu un petit témoignage de quelqu'un qui est à la Talo qui disait qu'il avait participé à une activité qui était le Printemps des poètes. Il a gagné un livre sur la vie d'Émile Zola. C'était le premier prix. Et le thème, en fait, c'était demain. Donc lui, il dit, moi j'ai pris 14 ans, donc quand on me fait parler de thème demain, ça me fout un peu les boules, quoi. C'est vraiment pour... Enfin, ils se donnent bonne conscience, ces gens, mais ils sont
plein. Et puis, à qui t'offre en premier prix un pauvre bouquin sur Émile Zola, hein. Je vais raconter Émile Zola, mais...
Et voilà, et dernier truc un peu concret, c'est aussi que les prisonniers, ils n'ont aucun pouvoir sur ce qu'ils produisent dans les ateliers culturels. Ça sort, on ne leur demande pas leur avis, c'est publié dans des livres, leurs photos sont exposées, ils ne savent pas forcément, on ne leur demande pas forcément leur avis. Ça aussi, je trouve que c'est significatif.
Donc voilà, juste moi je conclurai sur ça, c'est que en repartant du titre « Parole en liberté », c'est que la parole des prisonniers, leur parole à eux, elle existe. Et que il faut la chercher, quoi, et qu'elle passe pas par des dispositifs officiels comme ça, en aucun cas. Donc voilà, donc pour ça vous pouvez vous renseigner, vous pouvez écouter des émissions, lire des journaux, vous renseigner, mais en tout cas cette parole elle existe et la parole cette parole libre elle passe pas par ces ateliers là, quoi.
Voilà, et donc on disait un peu tout ça, on en a fait un texte et on redonnera notre adresse dans quelques minutes à la fin de l'émission. Si vous voulez nous le demander, on peut vous l'envoyer, hein.
Voilà.
On fait une mini pause musicale pour respirer 3 secondes.
Yeah.
If you lose, you lose alone. my friends, they're out of sight. Everybody loves a winner. Everybody loves a winner. But if you lose, let me tell you, if you lose, you lose alone. Let me tell you.
Alors, vite, 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 on est un tout petit peu en retard. Donc, on va clore cette émission Papillon avec une petite info agenda. En fait, vite fait, je vais revenir sur ce qu'on appelle les événements de Villiers-le-Bel. Villiers-le-Bel, c'est dans la banlieue nord de Paris. Le 25 novembre 2007, il y a deux jeunes à moto qui ont été tués dans une collision avec une voiture de police. Suite à ça, il y a eu trois jours d'émeutes vraiment chanues. Une invasion policière du quartier. Et voilà. Et trois mois plus tard, y a eu les flics ont envahi le quartier. Bon, ça a été super médiatisé, vous avez dû en entendre parler. Ils ont arrêté plein de gens. Il y a des gens qui sont passés en comparution immédiate. Il y a des gens qui, beaucoup plus tard, ont eu des procès pour jet de pierre avec des peines de prison ferme de plusieurs années. Et là, le 21 juin, il va y avoir quatre personnes qui vont passer en cour d'assises pour ils sont accusés d'avoir tiré à balles réelles, je crois, ouais, sur des policiers. Et en fait, ce qui est marrant, mais en fait pas marrant du tout, c'est que les seules preuves, entre guillemets, qu'il y a contre eux, c'est de la délation anonyme et rémunérée par la police. Donc voilà, il y a une espèce de tournée de soutien à tous les gens de Villiers-le-Bel, et notamment aux gens en prison qui ont des procès et tout. Qui se passe en ce moment. Et le week-end prochain, il y aura des gens, donc je ne sais pas si c'est des gens de Villiers-le-Bel ou des gens qui sont en tout cas intéressés très près à ces affaires, qui seront à Saint-Étienne. Donc c'est le week-end du 9, 10, 11. Il y a un festival hip-hop underground qui se passe dans pas mal d'endroits. Donc je n'ai pas le temps de vous détailler, je vous laisserai vous renseigner. Et en fait, le jeudi, donc ça sera du côté de la place Julguette, dans les bars, entrepôts, cafés, Père Pénard, tout ça. Il y aura une table de presse et peut-être les jours suivants aussi. Donc ça, c'est le jeudi soir. Le jeudi aussi, donc dans ces bars de la place Julguette, il y aura probablement des interventions pour expliquer tout ça un peu mieux. Et peut-être tous les jours suivants aussi. Et le vendredi, donc le concert du festival hip-hop sera à l'atelier Madeleine Rousseau, si je me souviens bien, c'est vers Château-Creux. Et là, il y aura probablement un film qui sera projeté sur tout ça. Donc voilà, en gros, si vous voulez discuter, avoir des infos et soutenir, profitez-en pour venir au festival Hip-Hop Underground. Et le 19 juin, à Paris, il y aura une manifestation de soutien aux gens de Villiers-le-Bel. Voilà.
Voilà pour l'agenda. Bon, un petit message maintenant.
Un gros bisou à Nabil.
Pareil, grosse bise.
Et puis, salut à tous les prisonniers, bon courage.
Ouais. Et puis, on rappelle rediffusion.
Ah oui, les infos pratico-pratiques.
Rediffusion vendredi 11, vendredi 11 à 10h30 et sur Radio Canu mardi 15 à 20h. Donc voilà, et puis on en profite pour saluer tous les détenus qui nous écoutent, de la Talo ou de Corba s'il y en a. Et puis voilà.
Et voilà, et pour nous écrire, prenez votre stylo.
Alors, c'est émission Radio Audio, émission Papillon chez Radio Audio, 14 bis rue de Roubaix, boîte postale 51 42002 Saint-Étienne, CEDEX 1. Donc voilà. Et on se revoit en direct le mois prochain, le premier dimanche du mois, à la même heure, 17h30.
Et bon courage, lâchez rien, et à bientôt.
Ouais, alors on va se quitter avec un morceau des Rouilleurs, donc mythique groupe de hip-hop de Saint-Chamond. Ils parlent des flics. Voilà, j'aimerais juste dire que j'ai beaucoup hésité avant de passer ce morceau parce que j'aime bien, mais quand même, ils disent plein de trucs hyper sexistes. Et
pourquoi t'aimes bien les flics?
Non. Et voilà, j'ai toujours pas compris pourquoi, pour critiquer la police, on avait besoin de dire des trucs sexistes hyper dégueux.
Tout à fait d'accord.
Allez, on la passe quand même, les Rouilleurs.
J'aime pas les flics.
Ciao.
Ciao.
J'aime pas les flics.
Écoute.
J'aime pas.
Après la calaracaille, je suis fait la taille. Appelle la rue pour la représailles. Faille un peu dans le cynique, l'emballe en face indique. L'homme est à l'Amérique, mais c'est pour réalité. Faut que les visiteurs d'animité oubliées. Tu ne pas vieux de s'arrêter. Les gourmets du guet, chat contrôle, c'est un pec. Machin la baguette, bigo contre la secte. Qui fait les manches, figure oui, c'est un plat, j'ai chier. Ah oui, tu resteras l'ennemi. les bleus n'ont pas mal à blanc pour faire couler le rouge sans pas de gauche, j'espère que tu pas quand on prend de temps. Avec ta femme pour implorer la dorselle, je vais pas saler sous ta seule coffre pénale. J'ai pas les jetons, que je
jette.
Et ben faut t'inquiète, mec, un peu moins direct. Sur ma victime de 7, on se fait une guette et un respect.